la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
De commencer avec la plus belle chanson d'amour de Johnny Hallyday. Salut à tous, bienvenue dans cette 66e émission de Par le bout de la lorgnette. On est tous ensemble, Popo est debout.
On va gagner.
Ensemble, Héloïse est avec nous. Salut Popo.
Salut tout le monde.
Tu as vu cette voix de Castafiore ?
Oui, mais je suis rentrée dedans d'ailleurs, bizarrement.
Eh ouais, le ridicule tue pas. Je me suis entraînée hein, pour réussir à chanter comme il faut. Héloïse, salut. Ah, c'est pas bon pour toi. Vas-y, reparle. Non, c'est pas bon pour toi. Vas-y, reparle.
Salut Ludo.
Ah, c'est bon pour toi. Ça va ? On va la gagner, cette Coupe du Monde ?
Ah, bien sûr qu'on va la gagner.
D'accord.
Moi, je parie dessus sans souci.
Sans souci ?
Ouais.
Ok. Contre qui, en finale ?
L'Espagne.
L'Espagne, pourquoi pas ? S'ils se rencontrent pas avant, je sais pas. Salut Val.
Hello.
Alors Val, c'est un grand jour pour nous deux.
Ah ben, je suis émue. Je sais pas que dire d'autre.
Et ouais, tu sais qu'on va parler du... Peut-être du plus grand livre français.
Mondial, on pourrait. Mondial. S'il a été traduit.
Oui. Absolument. Mmh. Gardien de ma vie.
Joël Batz, 1984, édition illustrée.
Ouais, édition poche. Ça... J'ai lu. Poche, j'ai lu.
Elles ont lu. Bien.
On va en parler. Ok, oui, à quelques jours de la Coupe du Monde, on va parler de football et donc de Gardien de ma vie, ce formidable livre de Joël Batz. Et on va parler d'autres livres qui ont trait à ce sport fantastique qui est le football. Je vous demande à toutes qui veut donner le coup d'envoi de cette partie.
Je dirais Antoine Griezmann, peut-être.
Antoine Griezmann, c'est parti.
Allez, c'est parti, Antoine.
Alors, Antoine Griezmann,
qui est-il
le livre. Qui est-il ? Ah, bah, pardon, je dois
le
présenter.
Alors, j'ai un niveau footballistique à peu près proche du moins de 10.
Ah, bah, alors, il est en équipe de France.
D'accord.
Voilà, c'est quand tout même, ce que. Je sais pas beaucoup plus.
Juste qu'il est bien coiffé, c'est tout.
Oui, il est bien coiffé. Effectivement, sur la couverture du livre, il est extrêmement bien coiffé. Donc, il aurait écrit ce livre-là. Je cherche l'auteur.
Tu dis ça avec de l'ironie, Jean. Il est footballeur, il ne peut pas écrire.
Il l'a écrit avec la collaboration de Fabrice Collin, quand même.
D'accord.
Voilà.
Merci,
Fabrice Collin l'a un peu aidé. Et donc, c'est en fait sa vie.
Ouais. Arrête, tu me fais rêver, quoi.
Ah, tu peux nous redonner l'âge de Griezmann si
l'âge, il doit être né en 2001 ou quelque chose comme ça.
Non, mais Antoine Griezmann est parti très tôt de sa famille en Espagne.
Ah non, mais puis surtout, j'ai le tome 4 sur...
Yes.
Oui, non, il n'y a pas un tome. Il y a, je ne sais pas, j'ai le tome 4 sur je ne sais pas combien.
Il vient juste de sortir. Ouais.
D'accord, donc sur 4. Et bon, on n'est pas du tout au bout de sa carrière. Hein, là, il n'a que 14 ans. Donc, voilà.
Et le tome 1, il a de 0 à 4 ans.
Je ne sais pas, j'ai pas lu les tomes 1 à 3, on peut les lire séparément, puisque je n'ai pas du tout été perdue dans le tome 4.
Antoine apprend la propreté.
Ouais, c'est ça.
Et ben, figure-toi qu'Antoine est déjà en contrat avec un grand club français, quand même.
Mais à quel âge ?
Il a 14 ans. Il est à 14 ans et il joue à Montpellier. Il n'a pas un contrat.
Quel bon
choix ! Je pense
qu'il
doit être en... J'ai pas tout suivi, mais il doit être en centre de formation ou en équipe jeune, je ne sais pas exactement. Et en fait, donc c'est pas Antoine Griezmann, hein, c'est Tony Griezy.
C'est bon.
Mais pourquoi?
Je sais pas, ça pourquoi lui va tellement bien.
Bah, il s'est mis un pseudo, c'est lui qui écrit le livre, après il met l'auteur, il lui appelle le personnage principal.
Pour qu'on comprenne que c'est pas vraiment sa vie, sa vie. Alors quand même, c'est très proche dans les événements. Il annonce au début que c'est pas exactement sa vie, mais finalement cet épisode-là, c'est quand même assez fidèle, c'est juste romancé quoi. Et donc, il joue à Montpellier à ce moment-là.
Ouais, parce que je suis pas sûr qu'il ait été à Montpellier.
Il a été, j'ai vérifié.
Ah,
j'ai
t'as vérifié.
Ouais, oui.
Elle a lu la vraie bio après.
En fait, il est pas resté très longtemps parce que il est gringalet, il est petit, maigrichon, il a du mal à se faire sa place et il y a de gros attaquants déjà dans son équipe jeune. Et donc, un jour sur un tournoi, il a l'occasion de jouer et ce jour-là, il y a un recruteur de San Sébastien, de la Real Sociedad, qui le repère et qui lui propose de venir faire un test à San Sébastien. Et donc, c'est ce test, c'est cet épisode de sa vie où il va devoir faire le choix entre rester de près de sa famille. Donc, il est de Mâcon ou Meudon ?
Mâcon. Il est de Mâcon.
Mâcon, oui.
À côté de Lyon.
Voilà, donc à Montpellier, être à pas trop loin de sa famille, et surtout mais ne pas avoir l'occasion de jouer, ou partir à San Sébastien, dans un pays dont il ne parle pas la langue, s'éloigner de sa famille, mais avoir une chance de jouer, parce que le recruteur a été hyper impressionné par son jeu. Et donc voilà, c'est Antoine Griezmann face à un choix...
Mais c'est des réflexions d'adolescents ouais, dans un cas très particulier, effectivement, parce que les footballeurs adolescents sont souvent confrontés à des choix difficiles, je trouve.
Mmh. Bah oui, et donc... C'est sympa parce qu'en fait, il a des copains. Lui, là, dans ce bouquin, il a pas la grosse tête. C'est un jeune garçon qui sait qu'il a, il peut tester pour devenir... il a l'occasion peut-être de devenir un grand joueur de foot, mais il s'emballe pas. Ses copains sont des jeunes, ses copains d'enfance sont des jeunes normaux qui lui donnent des conseils d'enfant. Enfin, voilà, c'est sympa, je pense. Ça se lit tout seul. Pour des jeunes, c'est...
Oui, n'importe quel ado peut s'identifier à ces problèmes-là.
Alors, c'est pas une BD, hein,
C'est un roman. C'est un roman. Et puis, bon, c'est un tout petit épisode de sa vie. Donc, si les jeunes accrochent, il va y avoir de quoi faire.
C'est que
à mon
sur
avis.
Cet épisode-là, ce livre.
Ouais. Tout ce bouquin.
Là, sur deux pages, il annonce à sa mère qu'il a choisi de partir à Saint-Sébastien. Ça me déchire le cœur.
C'est très triste,
j'ai
ce passage-là.
Aux yeux, là.
Sa mère,
pauvre Isa. Elle lui dit, mais tu parles même pas espagnol. Il a dit, mais ils sont basques, c'est presque pareil que le français.
Et ouais, alors qu'elle peut aller le voir, se faire des vacances à Saint-Sébastien, c'est pas mal, hein, parce qu'il y a des tapas plutôt sympas à Saint-Sébastien.
Donc voilà, c'est sympa pour un jeune ado, même un grand élève de CM1, CM2, je pense, sans problème. C'est sympa et c'est un bon bouquin pour commencer à lire pour quelqu'un peut-être qui aimerait pas trop ça.
Ouais. C'est un peu flippant quand même, hein. C'est un peu égocentrique, il n'a pas fini sa carrière. Il vient de gagner une Coupe d'Europe contre l'OM, donc c'est dire la facilité de la chose.
C'est pas un portrait d'Antoine Griezmann, grand joueur. Ouais. Hein. C'est plus une histoire d'enfant qui a sa chance dans le foot. Je vois pas ça comme un truc, un livre de cheville enflée ou...
Non, je pense que c'est vrai que ça peut permettre de faire passer certains messages via son image à lui, parce qu'il a plein d'ados qui sont fans de lui, et faire passer des messages positifs. Quoi.
C'est quelle maison d'édition
Michel Lafon.
D'accord, il y a d'autres joueurs chez Michel Lafon qui font ce type d'ouvrage ou...
Non,
je sais pas.
C'est le seul. Ouais.
C'est le seul, ah.
Ils n'ont pas fait Joël Batz, je ne comprends pas.
Mais je pense qu'on lui a proposé, en fait. Hein, je ne sais pas
Joël
si
Batz
l'idée vient de lui.
Ah non, Griezmann.
À toi, nous.
Alors, t'imagines, s'il gagne la Coupe du Monde, là, boum, tu te prends 10 tomes sur « Je me prépare à aller à la Coupe du Monde », je change mes chaussures,
Antoine
je
en Russie.
Partenariat, Antoine en Russie, je vais signer au FC Barcelone, non, je signe à l'Atlético, je reste, ça te fait 7 tomes déjà.
Dis donc, tu n'aimes pas Antoine Griezmann ?
Si, j'adore ce joueur. Ouais. Après, il est parti de Montpellier pour aller à San Sebastian quand même.
Tu savais même pas qu'il était à Montpellier.
Je ne savais pas du tout. Et ouais, c'est ça.
Voilà, un petit bouquin sympa.
Allez, merci. Fais passe à ta collègue ailière gauche Val.
Tu veux dire latéral centre droit ?
Latéral centre droit.
Voilà, madame, chère ménagère de moins de 50 ans, cher conjoint d'amateur de football. Oui, ton mari, ton conjoint, ton ami en a assez de t'expliquer 10 fois par jour les règles du football. Et tu en as assez de ne pas les comprendre. Voici la solution. Sous couvert d'offrir un livre à ton enfant, achète-le pour toi. Et ainsi, tu pourras découvrir toutes les questions et les réponses sur qu'est le football. Dans ma main, j'ai mes petites questions. Le football, dès 6 ans. Moi, je dirais même dès 4 ans, parce qu'un gamin qui s'intéresse au foot à 6 ans, il connaît déjà les réponses à toutes ces questions, mais pourquoi pas. Donc, c'est un petit livre. C'est dans la série « Mes petites questions » chez Milan, où il est état de 10 000 sujets, les inventions, le Moyen-Âge, l'eau, les loups, la préhistoire. Et il fallait bien faire, au milieu de ces sujets hautement importants, un livre spécial sur le football, où l'on va apprendre pourquoi est-ce que les chaussures de foot ont des crampons, combien de temps dure un match, qui donc choisit la couleur des maillots d'une équipe et comment on devient footballeur professionnel, enfin la toute dernière page.
Ah. Est-ce qu'on explique la règle du hors-jeu?
Parce que alors, ça, c'est récurrent, j'étais très déçue, mais la règle du hors-jeu n'est pas expliquée, pourtant c'est quand même la plus compliquée. On t'explique bien la surface de réparation, on t'explique bien les postes de chaque joueur. Comment est organisée la Coupe du Monde? Tu vas pouvoir briller en société, oui, toi, la ménagère de moins de 50 ans. Tu vas pouvoir dire, mais dis-moi, la France, ils sont dans quelle série déjà? La A, la B ou dans quel groupe?
La poule,
tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est pas facile, hein. Et est-ce qu'ils sont, ils ont passé les 32 équipes, ils seront dans les 16 équipes restantes? Parce que quand même, élimination directe, c'est compliqué. Voilà, donc tu vas pouvoir briller en société à quelques jours de la Coupe du Monde de Russie. En niant avoir acheté ce livre pour toi, puisque tu comptais l'offrir à ton petit neveu de 4 ans qui aime tant le football. Lis-le avant, chère ménagère de moins de 50 ans. Voilà, donc c'est un petit livre sans prétention qui explique un peu le football. Moi, je trouve que j'aime beaucoup ces éditions, là, mes petites questions, les questions ou autres. Ça permet d'aborder un thème sans chichi, de façon simple, sans que ce soit trop soporifique ni trop compliqué pour la ménagère de moins de 50 ans qui ne connaît absolument pas le football. Voilà.
Super Valérie.
Pourquoi les chaussures ont des crampons alors?
Je pense que c'était pour mieux tenir sur le gazon. Pelouse, il t'explique aussi selon comment est la pelouse que des fois tu peux mettre des crampons moulés ou vissés. Voilà. Ah. Les vissés faisant beaucoup plus mal au tibia de ton adversaire quand tu lui mettais un petit tacle. Mais d'où la question suivante, pourquoi les joueurs portent-ils des protège-tibia? Voilà, donc ça dépeint un petit peu. Il y a des choses sur les couleurs des maillots ou autres qui sont assez sympas.
Oui, des
aussi, petits années, voilà.
Sympas, ouais.
Après, c'est Milan le conseil des 6 ans, donc ça reste très léger. On n'est pas sur une encyclopédie Planète Football, la passion du jeu chez Gallimard Jeunesse. Voilà, par exemple. Donc, c'est vraiment une petite approche voilà, pour les enfants et à lire, enfin, que les mamans le lisent avec leurs enfants le soir. Ça permettra de mieux comprendre l'engouement.
Et les papas qui n'y comprennent rien.
Et les papas qui n'y comprennent rien aussi. Il y en a, voilà, c'est pour ça, voilà. Mais c'est une petite approche bien sympathique avec des images. On a deux pages par thème et c'est tout mignon. Voilà, c'est parfait comme approche pour la Coupe du Monde.
Génial.
Donc je fais une passe à mon latéral droit.
Non, je suis avant-centre.
C'est vrai, t'es avant-centre, donc je te fais une passe.
Je marque des buts. Mais
sinon, t'as pas les pieds carrés, toi, pourtant ?
Ouais, si, un peu, mais bon, tu sais, des fois, tu tires à côté et comme t'as les pieds carrés, ça rentre.
Ah oui, toi, je te parlerai tout à l'heure d'un joueur qui avait les pieds carrés.
Ce qui n'est pas le cas pour les poteaux carrés.
Mmh. Et oui, mais je ne vais pas en parler de ces poteaux carrés, peut-être.
On pourrait t'appeler Dada Maravilla.
Oui.
Je te dirai pourquoi après.
D'accord, mais tu me diras. J'étais en train de chercher parce que dans mon livre, je sais que c'est les Allemands qui ont joué les premiers avec des crampons.
Ah oui,
des crampons, alors qu'ils n'étaient pas du tout favoris. Il me semble que c'était contre les Pays-Bas et c'était l'Allemagne, c'était la RFA.
Et on a considéré qu'ils avaient
je cherchais la date parce que je ne sais plus.
Si c'était la RFA, c'est récent. Ils ont mis.
Ouais. Ouais.
Alors dans mon livre, on ne le dit pas. Hein,
ça doit être en 54 ou en 74, peut-être en 54.
Tu veux dire des crampons qui ont entre 1 et 1,3 cm de hauteur quand ils sont sur un terrain sec et dur?
C'est ça.
Ou 1,7 si le sol est trempé ou boueux?
C'est ça, absolument.
Là,
oui.
Je fais du remplissage. Alors, tant que tu trouves ta page,
bien.
Tu notes.
Ouais, non, parce que c'était en 54, ça y est, je le sais.
Peut-être qu'Héloïse pourrait nous chanter « On est tous ensemble » de Johnny Hallyday en attendant.
Ah non, on va la chanter. Hein. C'était en 54, il s'était complètement shooté d'ailleurs, il s'était complètement dopé lors de cette finale.
C'est vrai, pourquoi?
Les Allemands?
Ouais, parce qu'ils voulaient gagner. Et ouais, voilà, parce qu'ils n'avaient jamais gagné, ils voulaient gagner en 54.
Et il y avait des contrôles antidopage à l'époque déjà ?
Pas du tout. Et c'était, alors voilà, je vais te dire, le 11 d'or, c'était en face avec Puskas, c'était la Pologne. Contre la Pologne qui était invaincue depuis 3 ans. Ils ont perdu un match en 3 ans, c'était la finale de la Coupe du Monde 54 contre la RDA ou la RFA ? Je crois la RDA.
L'Allemagne.
Je vais te dire la RFA, oui, c'est ça.
Et ils ont gagné grâce aux crampons ou
le miracle de fer.
Ouais, la drogue.
Ben, en fait, un peu tout, quoi. Ils étaient complètement shooters, je vais te dire à quoi. Il y a eu des scandales hein, dans le football. Hein, et aussi parce que les Polonais, ou c'était les Polonais ou les Hongrois ?
Les Polonais, t'as dit.
Ouais, mais c'était peut-être les Hongrois, Puskás. Je cherche. Ils étaient sortis la veille, c'était un peu hautain. Ils avaient gagné par 7 buts d'écart contre cette même équipe pendant les poules, donc c'était facile. Et au final, ils ont perdu. Bon, bref.
Quel est donc ce livre ? Cette belle anecdote.
Ce livre incroyable qui s'appelle « Histoire de la Coupe du Monde ». Histoire incroyable de la Coupe du Monde chez Petit à Petit. Alors, je ne connais pas cette maison d'édition, Héloïse, je ne sais pas.
Ils font principalement des BD et des BD historiques en fait, pour expliquer. Tu as dans cette même collection, par exemple, la guerre 14-18, expliquée en BD, etc.
D'accord. Alors, il n'y a pas que de la BD, donc c'est l'histoire des Coupes du Monde. Hein. Ça commence à la première qui a eu lieu en Uruguay 1930 à Montevideo et ça se termine en 2014 lors de la dernière Coupe du Monde. Il n'y a pas que de la BD. Il y a de la BD, il y a un peu d'articles, il y a un peu de photos sur chaque épisode avec beaucoup, beaucoup d'anecdotes qui sont extrêmement sympas. Alors, je vais lire la fiche de lecture que m'a écrite ma stagiaire hier.
Mais elle pourrait la lire.
Elle pourrait même la lire, veut pas. Alors, qui a été écrit par un collectif international d'auteurs. Très bien, c'est pas très précis, mais bon, ça va aller. Avec un scénariste, Emmanuel Marie, 28 dessinateurs du monde entier. Donc, ça retrace 30 moments d'anthologie, c'est le nombre de Coupes du Monde. On retrouve des épisodes mythiques, des anecdotes inconnues. Alors, c'est pour les gens qui aiment le foot, qui sont pas forcément renseignés sur ce qui s'est passé en 1930, 34, 38, etc. Mais je vous conseille vraiment de le lire. Pour les gens qui s'intéressent au football, je vous conseille également de le lire. On apprend énormément de choses. Il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux politiques. On cache rien dans ce livre. Bon, c'est à peu près 7-8 pages par Coupe du Monde, donc on peut pas parler de tout non plus. Mais on donne quand même pas mal d'infos. Alors, je vous en donne une qui m'a marqué parce que je ne savais pas pourquoi. On distribuait des cartons jaunes et des cartons rouges. D'où est venue cette idée, à votre avis ?
Attends, je reprends mon petit doc, Milan.
Non, mais toi, t'as pas le droit, ne triche pas. Allez, Popo.
Moi, je dois avoir la réponse dans mon bouquin aussi, mais je l'ai pas lu aussi attentivement que ça.
Ah.
Je pense que ça date de 66, non ?
Oui, je me rappelle que c'est récent. Sang, non ?
Alors, absolument pas, ça date de 70, chère Valérie.
C'est dans mon livre, on me dit 66.
Non, mais ça, c'est peut-être arrivé en 66.
Lors d'une finale d'une Coupe du Monde, l'arbitre qui a voulu exclure un joueur et qui refusa. C'est ça ?
Et le joueur refuse, non. Ouais. Alors, je vais t'expliquer.
Donc, il y a deux histoires.
Voilà, il y a deux histoires. C'est un arbitre qui s'appelle Ken Aston qui a arbitré le match le plus scandaleux de l'histoire des matchs de la Terre entière, du monde entier, de l'univers, qui était le match Chili-Italie de 1962, où quelques journalistes italiens avaient mis le feu sur les joueurs chiliens et sur la Coupe du Monde qui était organisée en Chili, qui a été organisée 2 ans après un tremblement de terre où on se disait mais ça sera jamais prêt, attends, on a 2 ans pour tout reconstruire. Le Chili est arrivé, avait sorti une très belle phrase que je me rappelle plus d'ailleurs, il faudrait que je la retrouve, en disant on part de rien, donc on va arriver à tout, enfin quelque chose comme ça, c'était très beau. Et les Italiens s'étaient un peu moqués d'eux, ils s'étaient moqués d'eux avant le match, donc les Chiliens, il y avait eu 8 expulsés, 4 dans chaque camp, ça avait été scandaleux, des tacles à la gorge, etc. etc. Et donc cet arbitre qui a été marqué à vie par ce match-là, en 1970, s'est dit, il faut inventer des nouvelles règles pour permettre aux joueurs de se calmer, donc il faudrait les avertir pour leur dire, attention, si tu continues, tu vas t'expulser, donc comme ça, on leur laisse une chance. Et en fait, il a eu cette idée à un feu tricolore en voiture. Où il a vu le jaune, il s'est ralenti. Il a vu le rouge, il fallait qu'il s'arrête. Il s'est dit, mais voilà, il faut donner un carton jaune pour avertir les joueurs, pour leur dire, attention, tu vas t'expulser la prochaine fois. Et le rouge pour être expulsé. Et c'est sa compagne qui lui a dit, non, mais on va découper des petits cartons, comme ça tu leur montreras et ça parlera plus. En plus, c'est un langage universel parce que les feux tricolores existent dans énormément de pays dans le monde. Et ça arrivait de ça. Bravo. Donc voilà, il y a plein d'anecdotes comme ça, sympathiques, en dehors des histoires des Coupes du Monde et des histoires de ces finales. Il y a, vous savez pourquoi les joueurs lèvent la coupe quand ils gagnent la Coupe du Monde ou n'importe quelle autre coupe ? En fait, ça date de, alors, de 1958, le Brésil a gagné avec le capitaine Bellini et maillot jaune, Coupe du Monde jaune. Donc, les photographes ne voyaient pas la Coupe du Monde. Ils ont dit, tu ne peux pas lever la coupe pour qu'on la voit au-dessus de ta tête parce que ça, avec ton maillot, ça ne veut pas se voir. Donc, du coup, il a levé. Et après cette Coupe du Monde, tous les joueurs se sont dit, ah ouais, c'est génial, on lève la Coupe du Monde. Et tout le monde a fait ce geste. Donc, voilà, plein d'anecdotes. On parle du Zaïre, de Mobutu, ce grand dictateur où c'était la première équipe africaine qui était vraiment dans les outsiders d'une Coupe du Monde, sauf que les primes n'ont pas été payées. Les Zaïrois n'ont pas voulu jouer, ils ont marché, ils n'ont pris que des 7-0, des 9-0, ils sont rentrés, ils sont partis en tôle. Enfin, voilà, on parle aussi de ça, de ces problèmes de dictature. Il y a une Coupe du Monde qui a eu lieu en Argentine, la première Coupe du Monde en Argentine qui a été gagnée par les Argentins, et c'était je ne sais plus quel dictateur qui était au pouvoir. Il y a plein d'équipes qui ne s'étaient pas rendues sur place. Le match, l'Argentine ne devait pas arriver en finale. Il fallait qu'il gagne 4-0 contre le Pérou, qui était une des meilleures équipes du moment. Et donc, il y a eu une entente entre le président argentin et le président du Pérou pour laisser gagner l'équipe d'Argentine pour qu'il se qualifie en finale. Et en échange, les militaires argentins sont allés au Pérou pour enlever les opposants au pouvoir. Il y a eu plein de Coupes du Monde comme ça qui ont été truquées dans l'histoire de la Coupe du Monde et pas grand monde le sait. Enfin, les gens qui aiment la Coupe du Monde, l'histoire le savent, mais pas forcément les autres. Il y a l'histoire de Matthias Sindelar en 1938, un Autrichien. C'était un peu le Mozart. On l'appelait le Mozart du foot, ce joueur qui était un joueur exceptionnel. Et en 1938, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'Allemagne annexe l'Autriche. Évidemment, et donc de là on crée la Nationalmannschaft. La Mannschaft était l'équipe autrichienne, je ne sais plus le nom de l'équipe allemande. Notre ami Hitler dit on va réunifier tout le monde, on va se pacifier, on va créer la Nationalmannschaft. Coupe du Monde d'après, parce que l'équipe d'Autriche était la meilleure d'Europe à ce moment-là. Bien sûr, les joueurs autrichiens n'ont pas voulu jouer pendant la Coupe du Monde. Ils ont joué dans l'équipe, mais ils marchaient, ils faisaient rien. Donc, l'équipe a été éliminée d'entrée. Ce joueur, le Mozart du foot, a prétexté une blessure pour pas aller jouer cette Coupe du Monde parce qu'il voulait pas faire le salut nazi, jouer dans cette équipe. Et il est mort 6 mois plus tard. Il aurait ouvert le gaz chez lui pour mourir avec sa femme. Donc un peu étrange. Voilà, donc plein d'anecdotes, c'est extrêmement intéressant, en plus de l'aspect sportif, on voit qui a gagné, dans quelles conditions, avec quels joueurs, qui étaient les meilleurs buteurs, certaines fois sous quelle forme tactique on jouait. Il y a toute cette dimension économique, historique, sociétale, qui est extrêmement intéressante, c'est vraiment, vraiment un livre à conseiller.
Super.
Centre pour mon ailier gauche. C'est Héloïse qui saute. Alors... et qui loupe la balle de la tête. La balle va en touche.
Mais moi, je suis gardien.
Ah, tu es gardien.
Joël Batz, gardien de ma vie.
Mais je ne vais pas attaquer par Joël Batz. Oh.
Garde le meilleur pour la fin.
C'est ça. Je vais attaquer par un livre qui s'appelle « Qui sont les footballeurs ?» Donc, une petite collection très sympa aux éditions Ricochet qui s'appelle « Pourquoi, où, comment, qui et quand ?» Voilà, et donc il vient juste de sortir et ce tome-là est consacré donc aux footballeurs et au football international. Donc ça pose plein de questions, c'est consacré, le public c'est les ados quoi, c'est plutôt pour des ados qui s'intéressent au football, au milieu du sport, parce que c'est très complet, on parle du football au niveau politique, au niveau économique, au niveau historique. Il y a plein de questions qui se posent, même des questions voilà philosophiques sur par exemple ben la montée extrême de l'air, qu'est-ce qu'on doit en penser. On parle aussi d'anecdotes historiques comme le fait qu'en Afrique le football a déclenché une guerre mais aussi a permis la paix également. Voilà, des questions sociologiques comme ça qui sont vraiment intéressantes. Et ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois, ces questions sont reliées à un footballeur en particulier. Donc Bobby Charlton, Zidane, Michel Platini, voilà. Et donc par exemple avec Diego Maradona, on va aborder le football comme religion. Avec Giuseppe Meazza. Le calcio et ses mauvais génies. Voilà, donc c'est des chapitres qui s'enchaînent vraiment, qu'on lit avec plaisir. On a envie de découvrir, en fait, voilà, il y a des petites anecdotes, il y a aussi des questions. Et il y a les portraits en fait de ces joueurs avec par exemple voilà Didier Drogba aussi, la montée en puissance du football africain, où on parle de la condition des adolescents africains qui sont recrutés donc en Afrique et qui viennent en Europe dans des centres de formation, mais s'ils sont pas assez bons, bah voilà, ils sont rejetés dans la nature comme ça. Enfin voilà, c'est des questions vraiment intéressantes, terribles, et ça parle un petit peu effectivement des coulisses de ce football-là qui est évidemment un sport, mais qui est plus que ça en fait. C'est un des sports les plus regardés au monde, c'est un des sports les plus joués au monde aussi, dans n'importe quel pays, dans une cour d'immeuble, dans une cour d'école, c'est vraiment le jeu mondial par excellence. Et ça entraîne des questions plus que sportives, on va dire. Voilà. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce livre, c'est que on aborde à fond toutes ces questions avec des portraits vraiment sympathiques des acteurs du football.
Et ça change des livres classiques qu'on voit sur le football pour les ados, là. Pour le
oui,
coup,
tout à fait. Oui, je pense que ça va un peu plus loin, effectivement, que les règles, foot, les maillots, voilà. Les records, etc. Mmh. Voilà, c'est des questions, je pense, que même n'importe quel ado peut se poser quand il voit ses stars. Il doit bien se poser certaines questions, je pense. Donc ça y répond largement, cette petite collection.
Qui voilà. est l'auteur ?
Alors, il y a Philippe Jérôme et Élodie Perrotin.
D'accord.
Voilà.
Ok, super.
Et il est à 12 euros aux éditions du Ricochet. Et voilà, ça peut peut-être valoir le coup, même dans des collèges ou lycées. Voilà.
Voilà, on dit ça, on dit rien, Popo.
J'entends.
Allez, un petit morceau de musique choisi par Héloïse. Non, on va écouter qui ?
Alors, on va écouter Philippe Catherine.
Ah, j'adore.
MC Circulaire, Mid-Sizer, Catherine, 8-5, en rouge et noir. Les Vendéens sont pas si fous, partiront pas sans croire en vous. Sans croire, sans croire, partiront pas sans croire. Sans croire, sans croire, partiront pas sans croire. On les attendait pas à ce niveau-là. Comme des Écossais, ils n'ont jamais baissé les bras. As-tu déjà fait partie d'une équipe ? C'est fantastique de faire partie d'une équipe. C'est comme des planètes qui s'alignent, se dispersent et se replacent en ligne. As-tu déjà fait partie d'une équipe ? C'est magnifique de faire partie d'une équipe. Les Vendéens sont pas si fous, partiront pas sans boire un coup. Sans boire, sans boire, partiront pas sans boire. Sans boire, sans boire, partiront pas sans boire. Je lève mon verre à tous les petits gars des herbiers, que ni l'or, ni l'argent n'ont caressé. Les Vendéens sont pas si fous, partiront pas sans boire. Je lève mon verre à tous ces peuples massacrés, qui n'ont jamais su oublier la Vendée. Le rouge, le sang de notre ennemi. Le noir, pour notre deuil. Le rouge, le sang de notre ennemi. Le noir, pour notre deuil.
Sans doigt sur un HF, je viens te parler de VHF. Grosse dalle, grosse frappe, grosse et la recette. C'est la revanche de la province sur Paname. L'éternel duel de David contre Jonathan. La différence de niveau, je la vois pas trop. Toute façon, je suis nul en match, calcule pas les divisions. On monte sur la capitale pour la victoire. Ce soir, je suis comme Jeanne Masse, en rouge et noir. Je crois pas aux contes de fées, mais j'espère une chose. Que soit la petite bête qui mange la grosse. Toute une ville, tout un peuple derrière une équipe. Circulaire, mid-sizer,
en rouge et noir. Les Vendéens sont pas si fous, partiront pas sans croire en nous. Sans croire, partiront pas sans croire. Je lève mon verre à tous ces gens qui ont dit non. Ils aient eu tort ou bien raison. Ils ont dit non, 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 un peuple massacré. Je lève mon verre, oh, un peuple consacré. Je lève mon verre, oh.
8-5, je lève mon verre. 8-5, je lève mon verre. 8-5.
Et une belle chanson pour le Club des Herbiers, le petit poussé de cette année.
Voilà, qui est arrivé en finale, quand même, le Club Vendéen. Allez, seconde mi-temps, Pauline, avec ton très beau livre.
Ouais, dont on s'est moqué pendant la pause musicale, tout le monde a dit qu'il était moche.
Mmh. Non, on a dit qu'il avait une couverture qui correspondait à une époque qui n'était plus la nôtre.
Voilà, bah oui, j'allais le corriger comme ça, parce que je pense que dans le monde des jeunes d'aujourd'hui, c'est un super bouquin. dans son format, dans la façon dont c'est présenté, c'est vraiment le genre de bouquin, ça va plaire à tous les ados. Il a rien de vraiment très particulier. Hein. Il est plutôt classique. C'est en fait un genre d'encyclopédie du football qui est chez Gallimard Jeunesse. Comme on en a vu peut-être des milliers, mais malgré tout, voilà, elle est dans son temps et c'est sûrement sa qualité en fait.
Avec voilà, un titre accrocheur.
Ouais. Planète Football, la passion du jeu.
Pouf.
D'ailleurs, c'est une des premières pages, c'est sur le football féminin, c'est bien ça.
Alors ouais, moi j'ai bien aimé. En fait, au début, il y a plein de petites anecdotes pour changer. Il y a des anecdotes dans tous nos bouquins. Il y a la partie classique des règles, l'histoire. Il y a des trucs un peu plus originaux, par exemple l'aspect économique du football, mais bon, c'est moins original quand quelqu'un a déjà dit avant qu'il y avait ça dans son bouquin. Mais je trouvais que c'était plutôt sympa, que ça changeait un peu de ce qu'on voit. Et voilà. Et dans ces petites anecdotes, il y en a une que j'ai trouvée vachement étonnante, en fait, c'est que dans les années 20, donc là, c'est les pages consacrées au football féminin qui arrive en page 14, donc c'est déjà effectivement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et en fait, qui nous explique surtout l'intérêt de cette double page, c'est que le football féminin, on en parle pas beaucoup, mais c'est pas historique, ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 20, le football féminin, il avait autant de succès que le football masculin. On a vu des... Ouais, là, il parle notamment d'un match anglais où on a 53 000 spectateurs. Un match féminin. Donc, et c'est plus tard que, donc là, par exemple, à la fin des années 20, en fait, où on interdit aux équipes féminines de jouer sur les mêmes terrains que ceux des hommes, etc.
Faut pas abîmer la pelouse. Hein.
Bah. Avec leurs talons aiguilles.
Avec leurs talons, on sait pas. Hein.
Mais voilà, bon, c'est un livre qui est bien présenté, c'est plein d'images, ça aborde vraiment tous les sujets, au-delà un peu des règles, bah parce que t'as raison Valérie, c'est vrai que là c'est un livre qui s'adresse à des collégiens plutôt des grands collégiens, ils connaissent déjà tous les règles, donc c'est pas la partie qui est approfondie, mais plutôt les tactiques de jeu, les formations, l'avenir du football, donc c'est assez sympa et c'est surtout très bien présenté, donc c'est hyper tape à l'œil, ça va accrocher les jeunes, si on a envie qui s'installe avec un livre et qui y reste, voilà, allez-y, ça marchera du tonnerre. C'est des petits textes à lire, à chaque fois c'est 4-5 lignes, et puis 4-5 lignes sur autre chose, etc.
Et des photos, et des dessins.
Voilà, des photos,
comment
des dessins.
Comment bien marquer un but.
C'est assez génial, c'est assez bien pensé pour les jeunes d'aujourd'hui, je pense.
Et ça corrige aussi des contre-vérités qui auraient pu être dites dans cette émission concernant la date de la création du carton.
Voilà, on est deux à parler des années de l'année 66 quand quelqu'un parle des années 70. Voilà.
On ne le citera pas parce que c'est lui qui peut allumer ou éteindre les micros.
Oui, mais moi, c'est par Coupe du Monde, si tu veux. Donc, ils ont réfléchi en 66, mais c'est à la Coupe du Monde 70 qu'on a mis en place les cartons.
Je retrouve pas la page, c'est dommage.
Tu sors bien la tête de l'eau, Ludo.
Non, c'est un livre sympa, qui permet, voilà, c'est un livre à avoir dans une bibliothèque sur les règles, sur le foot en général, on peut avoir celui-là, et puis des choses à côté un peu plus originales, mais celui-là, c'est une base. Quoi.
32 tomes d'Antoine Griezmann.
Voilà.
Par exemple. Ouais, c'est l'encyclopédie, voilà, c'est une encyclopédie.
Voilà, c'est sympa.
Ok. Très bien. Allez, Valérie. Fais-nous rêver.
Eh bien, moi, j'ai le Palanti livre. C'est un peu le livre que personne n'a lu sur le football, puisque C'est un livre qui a été édité par SoFoot, qui est quand même une référence a priori dans le monde du football.
Excellent magazine, ah, c'est super. SoFoot.
Voilà. Ben, excellent livre. En fait, ils ont publié le tout et son contraire. C'est-à-dire que là, ils parlent dans leur livre, dont je lis le titre du livre, c'est « Héros oubliés de la Coupe du Monde, grand absent, destin maudit et amour d'été ». Voilà. Et en fait, c'est plusieurs... ils ont fait des sous-parties pour raconter quelques anecdotes, alors hyper bien documentées, très techniques. Enfin, on sent quand même que c'est des gens du milieu qui ont écrit ces articles-là. D'ailleurs, tous les articles sont extraits pour la plupart, les articles sont extraits du SoFoot.
Le magazine.
À deux ou trois près qui sont extraits, je ne sais plus de quel magazine, parce que je ne suis pas.
Donc
très...
c'est l'œuvre de plusieurs journalistes.
Oui, ouais, tout à fait. Après, il y a des choses qui ont été tirées de France Football, de El Equipo Deportera et Ole. Voilà, des magazines qui ne sont pas forcément publiés en France. Donc après, ils ont fait cinq sous-parties. Amour d'été, les épopées, les grands absents, destin maudit, coup fourré et un tourloupe. Et par exemple, dans les coups fourrés et un tourloupe, on retrouve un sujet qui est l'ombre du condor. Et ça raconte ce que tu disais tout à l'heure, Ludo, le match Argentine-Pérou, donc 1978, où on raconte Buenos Aires, 25 juin 78, le match, le fameux match qui a été perdu 6-0.
6-0,
c'est
il
ça,
devait
voilà.
perdre, il devait gagner plus, 4-0 ou voilà. plus pour se qualifier, ils
voilà,
ont gagné 6-0.
Pouvoir. Et avant chaque chapitre, donc c'est on retrouve un petit résumé de ce qui va se passer, avec toujours une illustration. Donc, ça permet d'avoir un accès à l'information, mais c'est, j'allais dire, pour moi, qui ai un niveau culturel footballistique proche du moins 15, comme je le disais, parfois c'était pas facile tellement c'était football à fond, quoi. Et c'est vrai que, voilà, quand on parle de, il y a l'article sur la main de Dieu, je crois que c'était le seul sur tous les sujets, donc il y en a beaucoup, c'était le seul dont j'avais déjà entendu parler. Voilà. Donc,
et ça t'a éclairé sur la main de Dieu
Oui, parce qu'en fait, là, il parle, c'est l'arbitre qui raconte, donc c'est Ali Benaker, c'est ça 1986, qui raconte le pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas sifflé. Et il explique, enfin, il dit pas je l'ai vu, je ne l'ai pas vu. Il dit juste qu'en fait, l'arbitre de touche n'a pas levé le drapeau et que juste avant, ils avaient reçu une information. Alors, de mémoire, c'est la FIFA, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà. Qui disait, à partir d'aujourd'hui, pour la Coupe du Monde, les arbitres touche sont vos frères, vos parents, vous vivez avec eux votre travail d'arbitre. Et si l'arbitre de touche est mieux placé, vous avez obligation de respecter la décision donc de l'arbitre de touche.
Donc il avait peut-être vu main alors.
Il accuse voilà. l'arbitre de touche.
Et l'arbitre de touche, voilà, il dit voilà, qu'il l'avait pas vu. Il l'a écrit pendant des années. Cet arbitre de touche était ukrainien, je crois. Pendant des années, il ressassait le truc en disant non, je l'ai pas vu. Et puis un jour, il a arrêté d'écrire. Ali Benaker dit, il pense que qu'il s'est refait le match dans la tête et que voilà. Donc c'est plein d'histoires comme ça. Alors il y en a qui sont un peu rigolotes. Tout à l'heure on parlait de quand je t'ai dit tiens je te parlerai d'un jeune qui a marqué beaucoup de buts. Je sais plus par rapport à quoi c'était. C'est un jeune en fait qui a joué qui s'appelle Dada. Rien à voir avec dadaïsme mais
Brésilien.
Ça pourrait presque ouais. Et qui a attaqué le football. Alors au pays où tout le monde naît, parce que les Brésiliennes, tout le monde le sait bien sûr, accouchent de l'enfant et au bout du cordon ombilical, il y a un ballon de foot.
Ben,
lui non, lui il a attendu 17 ans après avoir vécu dans des orphelinats, enfin une vie sordide de vol, de plein de choses, pour attaquer le football où c'est qu'il était hyper nul. Par contre, il tirait très bien les buts. Il était un super marqueur, il a marqué des nombres incalculables de buts, mais bon sang, qu'est-ce qu'il était mauvais. Et c'est un gars qui s'est retrouvé à jouer dans l'équipe nationale, qui une nuit a eu une vision comme quoi il marquerait 3 buts en Coupe du Monde, et son entraîneur a dit, attendez, il a fait comme Martin Luther King, il a eu un rêve, il va marquer 3 buts, qui lui laisse sa place.
Il n'y a que dans le football qu'on entend des trucs pareils.
Et voilà, il a même reçu un jour un message de Pelé qui félicitait. Et c'est assez improbable et c'est
mais
sa vraie vie.
Il a marqué ou pas ?
Non, après il a pas joué. Personne n'a voulu lui laisser sa place. Mais c'est un gamin qui s'est retrouvé et qui a marqué 926 buts en commençant sa carrière à 17 ans. C'est-à-dire qu'avant 17 ans, le ballon de foot,
non, il courait, 26 buts.
Il courait très très bien parce que, à ça force de fuir la police. Et en fait, le dernier vol qu'il a commis, c'était un ballon de foot parce qu'il s'est dit, bon, allez, c'est bon, maintenant, je me range, je vais mettre à jouer au foot. Voilà. C'est plein de petites anecdotes comme ça sur, il y a un peu de politique, hein. Le premier article, c'est sur Mordecai Spiegler, un joueur, israélien. Il y a des choses politiques, il y a des choses un peu plus drôles, il y a des coutumes, un peu surprenante. Et il y a même, Ludo, je te laisserai lire, page 114, un chapitre qui s'intitule Yellow Submarine.
Excellent.
Mais qui parle de Corée du Nord. Ah. Voilà. Donc il y a des épisodes un peu moins drôles. On apprend pourquoi un joueur coréen a pleuré pendant l'hymne sur la Coupe du Monde de 2000. Enfin, et c'est des choses, c'est pas des choses qu'on voit dans, je suppose, mais dans France Football ou dans l'équipe. Enfin, c'est plus les contre-articles.
Ce foot, voilà, pour garder un champ lexical footballistique, c'est des contre-pieds. Ils ont beaucoup d'articles transversaux où ils vont pas parler, voilà, de football, mais plutôt des à côté, des angles que les journalistes sportifs prennent pas forcément.
Et c'est très drôle,
c'est très drôle. Et très intéressant.
Et c'est, moi qui suis pas du tout dans le truc. Des fois, c'était dur parce que j'avais pas la culture du sujet avant de lire l'article.
C'est ça le problème. Ouais.
Mais malgré tout, c'est bien écrit, c'est bien renseigné, c'est hyper varié, puisque toutes les 10 pages, il y a une histoire différente. Et ça donne envie d'en savoir plus. Et ça donnerait presque envie de s'intéresser au foot.
Et de regarder le foot.
De regarder, mais ça je le regarderai par esprit.
Tu veux regarder la Coupe du Monde ?
Bien sûr.
Par esprit Popo chauvin,
aussi. Bien sûr. Mais tu nous as invités chez toi pour regarder le premier match, je te rappelle.
Exactement. Voilà. Sachant qu'on est, je suis allé à récup jusqu'à 11h30 parce que c'est la soirée anniversaire, mais on va y arriver.
Mais les matchs sont
à midi,
cette année,
samedi 16 juin,
souvent
à midi.
En journée. Ouais.
Popo, elle va regarder que Antoine Griezmann.
C'est ça. Ah bah oui, je suis devenue fan.
Déjà, il faut qu'elle achète le tome 1, 2, 3.
Ouais. Et 5, 6, 7.
Tu nous raconterais l'histoire pendant le match. Ouais.
Comment il a appris à faire du vélo, tout ça. Non, voilà. Là, donc l'héros oublié de la Coupe du Monde, de grands absents, Destin maudit, Amour d'été, de chez SoFoot, une contre-histoire. Dans la collection Contre-Histoire, c'est vraiment, c'est pas de l'anti-foot, hein, parce que au contraire, hein, mais c'est voilà, c'est du parallèle, c'est vraiment un beau gros livre.
Ouais, c'est une autre vision du football.
Ouais, mais qui est très sympa et qui ça réhumanise aussi un peu les joueurs, parce que c'est on parle d'eux et on se rend compte aussi que beaucoup de grands joueurs, ils sont pas tous arrivés dans le haut du tableau facilement. Finalement, il y a beaucoup de grands joueurs à qui il est arrivé tout un tas de galères avant. Et est-ce que c'est ça qui leur a donné la force d'esprit d'arriver à être sportif de haut niveau
non,
la
mais
suite, à la prochaine
tous les
émission
joueurs, tous
ah
les
oui,
grands,
c'est pas un
tous chemin, les grands joueurs arrivent difficilement. Hein, comme l'expliquait Popo, on part de chez soi à 13-14 ans. C'est compliqué. Hein.
Oui, mais il y a plein de cas de figure. Effectivement, regarde Ribéry, qui lui a été reconnu sur le tard, qui a galéré à Boulogne-sur-Mer. Voilà,
qui est parti à Metz, qui a abandonné, qui après Boulogne a abandonné, est devenu carreleur avec son père, avant de partir à Metz et Marseille.
C'est des chemins semés d'embûches. Ouais.
C'est ça. Allez, je vais parler. Moi, je pensais que c'était SoFoot aussi que tu m'avais donné, mais c'est pas SoFoot, c'est Nous sommes foot. C'est des sports, Nous sommes foot pour un football populaire chez Mucem. Alors, c'est un hors-série de la revue des sports, un spécial foot écrit par Florent Moll et Gilles Pérez. Gilles Pérez, qui est un auteur, réalisateur et producteur de films documentaires, qui a notamment réalisé Les Rebelles du foot en 2011. C'est un documentaire, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui met en lumière les relations entre sport et politique avec la participation d'Éric Cantona. Florent Moll, lui, est conservateur du patrimoine du Mucem. Vous connaissez le Mucem ?
Oui.
Tant mieux, sinon Pauline qui est ici présente, pas Popo, mais Pauline aurait dû vous expliquer ce que c'est. Qu'est-ce que le Mucem alors, Valérie ?
Bien, je n'en ai à peu près aucune idée.
Très bien. Héloïse ?
C'est le nouveau musée de Marseille ?
Exactement, absolument, le nouveau musée de Marseille. Ce qui me pose problème parce que ça parle beaucoup de l'Olympique de Marseille, moi qui suis supporter de Montpellier. Et très peu de Montpellier.
Et c'est incompatible ?
Non, ah. Mais bon.
Bon, pas grand-chose est compatible avec l'Olympique avec Marseille. De Marseille, si.
Alors, Nous sommes foot retrace les temps forts. C'est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée situé à Marseille. Donc, Du coup, ça retrace les temps forts du football avec beaucoup de sujets sociétaux, oui, encore, comme la passion, la politique, la religion, les inégalités, les hooligans, les valeurs. Et c'est plein de petits articles sur différents thèmes de différents auteurs. On retrouve Vincent Duluc, qui est journaliste sportif à l'Équipe, que tous les amateurs de foot et qui achètent l'Équipe connaissent forcément. On retrouve... après, je ne connais pas les autres auteurs, à part notre ami... je pourrais dire mon ami, parce qu'on a assez, on a une relation assez personnelle. Notre ami Gabriel Garcia Marquez, qui était devenu aficionados de football et qui a écrit un article sur le football. Ouais, il est allé dans un stade de football pour écrire un article. Il est devenu fan de ce sport, du coup, qu'il a suivi, mais il a écrit qu'un article, à ma connaissance, qui est celui-ci, où il compare les joueurs de football à des écrivains. Et ça, c'était avant son temps de solitude, etc. Donc, ouais. Il n'était pas connu à cette époque. Donc, ça, c'est drôle. C'est pas vraiment intéressant parce qu'on connaît pas les joueurs et qui comparent à des écrivains, mais on voit déjà la personne qui veut devenir écrivain et qui tombe dans le football comme ça d'un coup, voilà, qui supportait je sais plus quelle équipe, peut-être une équipe argentine. Alors on va nous parler du FLN, ça c'était dans notre histoire de la Coupe du Monde aussi, juste avant... que l'Algérie devienne indépendante. Certains joueurs de l'équipe de France qui étaient d'origine algérienne, qui ont fait toute leur classe en équipe de France, en espoir, etc., au moment de rejoindre l'équipe de France pour partir à une Coupe du Monde, ont décidé de non, politiquement, de jouer avec l'Algérie. L'Algérie était interdite par la France d'avoir d'équipe. Donc, ils avaient une équipe du FLNC qui jouait que des matchs amicaux. Ils ont joué des matchs amicaux pendant 2 ans en attendant que l'Algérie devienne indépendante et qu'ils aient une équipe. Donc, ils ont fait pendant 2 ans des matchs amicaux, mais l'objet était ailleurs, a été de représenter son pays pendant une période un peu trouble de la colonisation. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Valérie, tu dis, si je t'embête.
Non, je suis passionnée, là.
D'accord.
Non, mais je trouve ça... je trouve que des fois, le sport est injuste.
Oui, c'est vrai. Hein. Des fois, on se fait tacler par derrière. Alors ensuite, on va parler des hooligans, du totalitarisme, des illusions du foot nazi, de la culture populaire. Après, voilà, on essaye de se dire le football est une culture populaire. Pourquoi on peut pas intellectualiser la chose? Donc, c'est des articles un peu intellectualisés. Donc, c'est un peu gênant parfois parce qu'on va chercher on pousse un peu, quoi. On pousse un peu, c'est pas...
T'as eu des réponses?
Non, parce qu'après, c'est des sujets précis que je connaissais plus ou moins. Et après, c'est des beaux textes. Et c'est surtout sur le football de la Méditerranée. Voilà, vu que c'est sur Marseille, c'est ce lien entre football et art de la Méditerranée. Donc, il y a un peu de tout, mais c'est intéressant. Ouais.
Oui, il y a une grande expo au MUCEM, du coup, par rapport à ça, au football populaire, avec des installations d'artistes autour du football, etc. Ça avait l'air...
C'est en
ça avait l'air chouette. Non, c'est fini.
Mais c'est de là qu'est sorti ce livre. Voilà, des sports, nous sommes foot pour un football populaire.
J'ai vu une statue de Maserati recevoir un coup de boule de Zidane de 10 mètres de haut.
Maserati,
c'est pas ça?
Non. Non, c'est une marque de voiture, Maserati. Bah,
alors c'est l'italien, ça va un coup de boule de Zidane.
Petite dyslexie.
Oui. Ouais, on va ça. Voir si avant la fin de cette émission, tu vas
Materazzi,
trouver...
c'est ça?
Materazzi, voilà. Absolument. Alors, Valérie, tiens, mais vu que tu as la parole, on a 2 choix. Laisse-t-on la parole à Popo pour un dernier livre? Parce que vois
j'en
que...
ai plus.
Ah, mais t'en as plus.
C'est un cadeau qu'on m'a fait, ça.
Ah, ça, c'est le cadeau.
C'est un gaffe du feu.
Est-ce que tu as encore un livre, Valérie?
Non.
Ouh là 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 là, on s'attaque, on s'attaque au monument.
Je pense que là, on va dans le vif du sujet.
Ouais.
Alors, oui, je vais vous parler de Tommy, droit au but.
Ouais, ce qu'on attendait.
Petit tacle.
Tricherie.
Non, je vais. Bah, il me reste un peu de temps, donc je vais parler de tous les livres qui me restent. Mais t'inquiète pas, ça va arriver. Donc, Tommy, droit au but, c'est un livre jeunesse publié à La Joie de lire de Rotro Suzanne Berner. Et c'est un peu le penchant romancé de ton livre à toi, le premier que t'as présenté, les questions du football. En fait, c'est vraiment en fait toutes les règles du football, mais expliquées en fait dans le cadre d'un match en famille entre quelques petits lapins. Donc du coup voilà,
des lapins,
11 petits lapins, c'est ça?
Voilà,
11 autres,
22
c'est
donc
des familles nombreuses souvent les lapins. Voilà. Et carton jaune, l'arbitre, le but, le poteau, enfin tout est expliqué à travers ce sympathique match en famille.
Est-ce que le hors-jeu est expliqué?
Alors oui, je crois. Je crois que le hors-jeu est expliqué, effectivement. Donc voilà. Donc juste.
C'est tout.
Mais il est tout beau en plus.
Mais il est très mignon. Couleur. Et je pense que, voilà, justement, là, pour les tout petits, expliquer si c'est un jeu qui les intéresse, expliquer les règles basiques, hein, à travers une histoire comme ça, avec des personnages tout mignons, je pense que ça peut être pas mal. Voilà.
Ok. Très bien. C'est tout
mignon. Oui.
Allez. Mmh. Il aurait fait que je mette une musique hein, pour
un petit roulement de tambour.
Un petit roulement de
mesdames
tambour.
Et messieurs, après 4 ans d'émission, enfin, vous l'attendiez tous.
On en parle depuis 4 ans. Oui.
La présentation officielle du grand livre de Joël Batz, Gardien de ma vie.
Au cœur de la nuit, je ne trouve pas mon sommeil. Comme dans un film, en accéléré, les images se bousculent. Allongée dans le noir, j'en ai 2 ou 3 qui se figent. Elles sont généralement liées à une douleur, à un endroit du corps endolori. Au cours de ces heures qui finissent par m'entraîner dans un sommeil heurté, l'énervement prend le dessus. J'ai appris à analyser ce sentiment piquant et frustrant. C'est d'abord la panique de réaliser que la sanction est tombée et que toute la lucidité du monde n'y pourra plus rien. Les victoires procurent un autre genre d'énervement, l'idée que l'on ne saura pas complètement profiter de la plénitude d'un résultat positif.
Et alors, il n'y a rien
là. Alors là, il n'y a pas de l'auteur là, hein. Marguerite alors, Duras, elle est où là?
Voilà, Joël Batz, Gardien de ma vie.
Popo est en train de
chier. Joël Batz, je pense qu'il a vraiment écrit ce livre lui-même.
Ah, je suis pas sûr.
Et
moi.
J'ai franchement, le style m'a surpris. Ça m'a vraiment surpris parce que je trouve ça vraiment bien écrit. Enfin, peut-être des fois un peu ampoulé, mais voilà, j'ai trouvé ça quand même vraiment pas mal pour quelqu'un dont ce n'est pas le métier, on va dire. Et donc voilà, dans Gardien de ma vie, Joël Batz, il vient parle de sa vie, parle de sa fille, de sa femme, de son parcours à Sochaux, de ses entraînements, du passage au PSG. On commence d'ailleurs, voilà, le premier chapitre, c'est son dernier match à Sochaux. Et quand il croise le regard de sa fille qui est toute triste de déménager, enfin voilà, c'est plein d'anecdotes en fait, comme ça. Voilà, c'est la vie d'un homme qui a eu une vie mouvementée et assez intéressante. Après, ça ne m'a pas non plus passionnée, mais
de quoi
j'ai été surprise vraiment par ce style en fait et agréablement surprise. Après, bon, voilà, c'est un livre qui se trouve plus, hein, malheureusement, que collecteur. Je pourrais pas vous commander à la librairie.
Épuisé.
Je peux le prêter à la demande.
Épuisé.
Épuisé, voilà. Alors, j'ai cherché à contacter Joël Batz.
Non!
Est-ce que...
Tu es fabuleuse!
Elle a appelé son fan club.
Est-ce
et
que
elle a...
vous savez, parce que toi, tu le sais, je te l'ai dit, ouais, mais est-ce que vous savez où il est maintenant, ce cher Joël?
Il est à Marseille, non? Il est pas,
non, non, non.
Il est pas dans
il était entraîneur des gardiens de Lyon, il a arrêté il y a 2 ans.
Il est en Lozère.
Non. Il était entraîneur des gardiens de Lyon et un des gardiens de Lyon est parti jouer au Québec et il l'a suivi pour l'entraîner là-bas. Donc Joël habite au Québec maintenant. J'ai écrit à son club pour savoir.
Incroyable!
Pour savoir si, voilà, s'il voulait entrer en contact avec nous dans le cadre de l'émission littéraire, savoir. Qu'est-ce qu'il pensait de...
Qu'on parle de lui à chaque émission.
Et donc Valérie nous l'avons ça. Au bout du fil. Joël. Oui, c'est Joël.
Le club m'a répondu et m'a dit que voilà, les choses sont encore en cours de négociation, okay. Mais je pense qu'on pourrait avoir un petit mot de Joël bientôt.
Incroyable. Le...
Peut-être pour la dernière émission dans 2
j'espère.
Semaines, nous aurons.
J'espère.
Valérie est mieux. Oh,
j'en ai une larme aux yeux, Héloïse.
Est-ce que tu peux nous parler des photos de ce livre? Non, parce que c'est un livre qui est entrecoupé de
oui,
photos, quand même.
C'est vrai,
c'est parti d'une private joke, quand même. C'est oui. Parti d'une bêtise, quand même. C'est grandiose ce que tu fais.
Autant aller jusqu'au bout. Hein.
Je crois que je n'ai jamais lu en entier ce livre.
Ouais, moi, je ne me rappelle plus.
Je crois que je me suis arrêté à 10 pages et je regardais les photos. Après, pendant 3 ans, je regardais les photos.
Moi, j'étais en CP quand j'ai voulu le lire. Donc, c'était une torture d'essayer de déchiffrer. Il y avait des mots que je ne comprenais
ah,
pas.
Oui,
donc...
Vu le passage qu'elle nous a lu en CP, oui, ça ne devait pas ça, être très simple. Ouais.
Après, oui, il a été champion de France. Il a été champion du monde aussi en 84.
Non. Champion d'Europe.
Champion d'Europe.
Et encore, je sais même pas, c'était peut-être Ettori. Était champion qu'en 98, donc en 98, il était un peu vieux.
Champion d'Europe en 84, alors.
Ah, mais il était peut-être dans le staff, hein, Joël Batz.
Je sais pas.
De Jacquet. Entraîneur des Gaules, c'était qui l'entraîneur des Gaules
Je sais pas, je me rappelle du Chauve, juste qui a arrêté les buts.
Ouais,
lui,
mais, non, mais lui, c'est Gaules. Ah, ça a vérifié. Peut-être qu'il est champion du monde, ouais.
Voilà, enfin bref, sacré parcours et à suivre.
son parcours.
Pour le contact.
On va peut-être donner les résultats de ses clubs, de son club québécois.
Ah ouais, c'est chic. À chaque fois, plutôt que de reciter chaque fois le livre Joël Bat, gardien de ma vie.
Pourrait... Que personne ne peut acheter vu qu'il est épuisé.
Oui, c'est ça. Mmh. Mais je maintiens que je le prête à qui veut le lire.
Il a aussi fait une chanson. Enfin, un CD, ouais. Mmh.
Mmh. C'est un CD, carrément, c'était pas un 45 tours.
Ah oui, ouais. Mais...
Une cassette.
Excellent morceau, d'ailleurs, oui, Joël Bat. Oui, oui, oui. Bah,
enfin, on l'écoutera dans deux semaines. C'était un homme de talent, quand même. Écrivain, musicien, footballeur.
Non, non, c'est quelqu'un qui m'a semblé assez, assez curieux, en fait, et, avec des origines modestes et qui s'est battu, en fait, pour ça et pour sa famille.
C'est beau.
Ah, c'est beau, on va terminer sur ces mots d'espoir. Ouais. Hein. Il nous reste une émission. Hein.
Oui.
Une seule. Hein.
Une dernière émission. Vite, hein. Et le thème sera les vacances.
Tout à fait à propos.
Parce que même s'il ne fera peut-être pas beau pendant ses vacances, qu'il fasse beau ou qu'il ne fasse pas beau, il faut lire.
Ça sera quand même les vacances. Hein, c'est ça. Ok, merci les filles. À dans deux semaines alors.
Ciao.
Bye.
Ciao, bye.
Au revoir.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein dans la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.